Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bonjour mesdames, messieurs. Bien, nous allons donc reprendre notre analyse de la fin du sacrifice. Et je voudrais peut-être commencer par vous présenter un tableau qui serait un résumé, nous allons dresser cela, hein, un résumé de ce que nous a appris le Shusho Mantra, le texte intitulé Shusho Mantra. Donc, on peut se représenter la récitation de ce que nous appelons l'Avesta ancien de la manière suivante. L'Avesta ancien, ce que nous appelons, nous, l'Avesta ancien, et ce que l'arrangeur du yasna appelle les stauta yasna, commence avec le yasna 27-13. C'est lors de la récitation du chapitre 34, nous avons fait l'hypothèse que c'était le moment de l'immolation animale. Le yasna 36, qui se situe dans le yasna, deuxième chapitre du yasna Haptankaiti, présente comme opération la transsubstantiation du feu. Et l'offrande carnée dans le feu. Yasna 51, l'avant-dernière gatha, suivi du Yasna 53. Entre les deux, il y a une nouvelle récitation du Yasna Haptankaiti. C'est dans cet intervalle que se situe ce que l'auteur du Visprat nous dit, le Vertrakna, le Brit, l'obstacle, a lieu dans cet intervalle. Donc, en Yasna 54.1, Yasna 54.1, c'est pour nous la fin de l'Avesta ancien, selon des critères strictement linguistiques, mais comme nous, je vous l'ai exposé, pour l'arrangeur du Yasna, cet Avesta ancien continue jusqu'au Yasna 58, le Shusho Mantra, et il est clôturé par la litanie du Yasna 59. Donc, du Yasna 36 au Yasna 58, il y a combustion de l'offrande dans le feu et une récitation hiératique, où l'on ne fait donc aucun geste, d'aucune sorte, durant le temps de cette combustion. Le Yasna 58 marque la fin de la combustion et la banalisation du feu. Le feu redevient un feu domestique. C'est donc à ce moment-là la fin. Et au Yasna 59, les gestes reprennent. Nous le verrons d'ailleurs. Nous pouvons le constater dans le texte. Alors, les choses se présentent de la manière suivante, pas du point de vue littéraire. Entre la transsubstantiation du feu et l'offrande carnée et la fin de la combustion, la métaphore centrale est celle de la razzia, le titre même du Shusho Mantra, le mantra du conquérant du bétail. Et une fois le feu rebanalisé, le feu domestique devient au contraire protecteur du bétail. Cette protection est évidemment la contrepartie de la razzia consentie dans le sacrifice. Voilà la manière dont j'aimerais dépeindre ce que nous avons tiré, par hypothèse, bien entendu, vu notre connaissance imparfaite des mots, ce que nous avons pu tirer du Shusho Mantra. Alors, le Shusho Mantra, c'est le dernier volet de l'Avesta ancien, de ce que l'arrangeur du Yasna appelle les Stauta Yasna, les éloges sacrificiels. Le Yasna 59 en fait partie. C'est une litanie de clôture en avestique récent. Oh, ce n'est pas un texte qui, a priori, suscite un intérêt immédiat. Connaissons déjà cette litanie. Sa seule caractéristique, c'est qu'elle est globalisante. Elle est globalisante, c'est-à-dire qu'elle reproduit toute la litanie, tous les items en yasamaïdé du yasna 6, avec les additions du yasna 17 et les additions du yasna 26. Donc, tous les éléments que nous connaissons déjà sont repris. Mais, malgré tout, cette litanie se clôture, se termine par des strophes originales. Ce sont les textes qui vous ont été transmis. Hein, la strophe 27, 28 et 30 représentent un matériel nouveau. Nous pouvons les lire, si vous le permettez. La strophe 27 achève la répétition du Yasna 26, qui est un texte consacré au Fravashi, comme nous l'avons vu il y a 2 ans, je pense. Hein? Donc, nous sacrifions Yasamaïdé à toutes, Wispor, à toutes les Fravashi, dont les caractéristiques sont d'être Vanknuhish, bonne, Soura, disons, irrésistible, Spuntor, bienfaisante. Et ce sont celles, génitif pluriel, Achaounan, ce sont celles des Achavan, des partisans de l'agencement, de la réalité. Et ces Fravashi auxquels nous sacrifions, ce sont celles qui, Yor, commencent avec Gaïa Martan, jusqu'à finissent avec le Saushiant. Vertra Jan, le Saushiant qui brise l'obstacle. Donc, une dernière relative qui exprime la totalité des Fravashi depuis le premier homme. Gaïa Martan est le premier homme. Son nom signifie très exactement la vie immortelle. Il est le fils d'Ahura Mazda et de la terre. Mais. Nous connaissons mal sa mythologie, il apparaît très mal dans l'Avesta. Ce que nous apprenons plus tard par les textes moyens perses risque d'être déformé. Mais tout ce que l'on peut comprendre, c'est que les mésaventures qui sont arrivées à ce Gaïa Martan, qui ne dépassent pas le stade de l'embryon, expliquent pas les défauts de la nature humaine par rapport à la nature divine. Il est le premier homme, mais il n'a pas une très longue carrière. On peut songer que l'attaque des démons va provoquer l'avortement de sa mère, la Terre. Et Gaïa Martan connaîtra une mort immédiate, mort quasi immédiate. Mais tout de même, il est considéré comme le tout premier qui est sacrifié, comme le tout premier homme qui est sacrifié. Remarquez d'ailleurs que dans cette représentation des Fravashi, lorsque l'on veut se référer à la totalité de l'histoire humaine, Zarathoustra est effacé. Hein? Il est effacé pour simplement parce qu'il est au centre et que ce qui est au centre va de soi. Mais ce sont les extrémités qui retiennent l'attention lorsqu'il s'agit des Fravashi. Il ne faut pas voir dans cette substitution de Gaïa Martan à Zarathoustra une secte différente, comme plus tard, au 8e siècle de notre ère, les docteurs musulmans décriront dans le mazdéisme en parlant d'une secte de Gaïo-Martian, de mazdéens pour qui le personnage central de leur histoire serait Gaïo-Mart, et que nous ne connaissons par ailleurs pas, parce que nous n'avons pas de texte qui renvoie à ça. Je ne pense pas que ce soit cela ici. Ce n'est pas une trace de doctrine sectaire. Je ne pense pas. Simplement, c'est que on envisage les deux bouts de la chaîne sacrificielle. Le premier sacrificateur et le dernier, qui sera le Saushiant, qui brise l'obstacle, celui qui a su briser l'obstacle. Maintenant, je voudrais, puisque nous en sommes ici, revenir avec vous sur ce terme Saushiant. Il est exemplaire à plusieurs égards dans le contexte qui nous intéresse et dans la méthode de travail que nous avons désormais adoptée. Le mot Saoshiant est un mot très important pour l'étude de la doctrine religieuse mazdéenne, parce que c'est lui qui cristallise tout le problème de l'aspect messianique que l'on peut prêter à la religion mazdéenne. C'est l'acteur de la fin des temps. Après son intervention, le mal sera balayé du monde matériel et les morts ressusciteront. Dès lors, vous comprenez bien le type d'analogie que l'on peut faire et qui a été faite. Si vous ouvrez le dictionnaire de Bartholomée au mot Saoshiant, vous verrez que sa traduction, et c'est, en allemand, c'est Retter, Retter, ensuite Heiland. C'est ce qui veut dire sauveur. Sauveur, le sauveur. C'est très exactement le vocabulaire que l'on utilise dans le christianisme. Très exactement ce vocabulaire qui est utilisé par Bartholomée. Mais Bartholomée, néanmoins, est obligé de se poser au-delà du sens analogique qu'il pose dans ses colonnes. Il doit tout de même se poser la question de l'origine du mot Saoshiant. Or, le mot Saoshiant, grammaticalement, est tout à fait clair dans sa construction. C'est le participe futur, actif, d'une racine qui est sous, et à laquelle Bartholomée accorde un sens transitif, celui qui apporte un profit, celui qui aide, celui qui apporte un bénéfice. Et tel est le sens littéral qu'il postule donc pour le mot Saoshiant. Et puis il procède naturellement au sens conceptuel à l'intérieur des textes en posant Retter et Heiland. Or, la situation, je vais vous la répéter, ce sera la troisième fois de ma carrière dans mon enseignement dans cette maison où je reviendrai sur le problème du Saoshiant. Ce sera en réalité ce que je vais vous dire complétera ce que j'ai dit il y a deux ans au sujet du mot. J'avais envisagé la première fois lors d'un cours de la fin du XXe siècle, les années je crois 1999, le mot parce que j'avais dû réagir à une hypothèse de Hinz. Alors le moment est venu d'un peu retirer tous les fils au sujet de ce mot Saoshiant. C'est une notion, vous le comprenez bien, qui occupe une importance considérable à l'intérieur des représentations que l'on a du mazdéisme. Et effectivement, la situation réelle, lorsque l'on veut observer les attestations du mot, sont extrêmement embrouillées. Sont embrouillées parce que nous devons tenir compte de deux contrastes. Il y a d'abord un contraste, au point de vue du sens, entre l'usage qui est fait du mot dans l'Avesta ancien, donc dans le vieux dialecte, et l'usage du mot qui est fait dans l'Avesta récent. Ça, c'est la première mise en contraste que nous devons opérer. Ensuite, il semble qu'il y ait, à la fois dans l'Avesta ancien et dans l'Avesta récent, donc à l'intérieur de ce premier contraste, un autre contraste qui est celui du singulier et du pluriel. Le mot ne semble pas avoir parfaitement le même sens selon qu'il est utilisé au singulier ou au pluriel. Vous comprenez immédiatement que ça va de soi. Hein. Ça va de soi, la logique vous l'indique. Un sauveur, un acteur de la fin des temps, en principe, il n'y en a qu'un. Or, le mot est fréquemment utilisé au pluriel. Alors, Bartholomée, en 1904, hein, dans son dictionnaire, je vous le rappelle, a tenté d'organiser ce matériel de la manière suivante. Donc, il envisage l'Avesta ancien au singulier. Le mot désigne Zarathoustra. Petite précision, quand je parle de l'Avesta ancien, je pourrais dire ici les Gatha, parce que le mot Saoshiant n'apparaît pas dans l'Yasna Abtankaiti. Je ne sais pas si ça a une importance ou pas. Alors, au pluriel, Zarathoustra est celui qui apporte le salut, hein, singulier, il apporte le salut dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde contemporain de la composition des gathas, puisque Bartholomée, bien sûr, considère Zarathoustra comme un personnage historique, quelqu'un, le titre de sa brochure, « Vie et enseignement de Zarathoustra » le montre bien. Zarathoustra, pour Bartholomée, est un personnage historique qui a vécu, dont on peut éventuellement reconstituer la vie, et qui a apporté un enseignement précis. Cet enseignement précis se trouve dans les gathas. Alors, au pluriel, les Saushyant, eh bien, ce sont les adhérents à Zarathoustra, ceux qui entendent collaborer à son œuvre de salut. Ce sont les adhérents. Bien, alors, l'Avesta récent. Bartholomée est adepte de la chronologie longue. Il postule donc plusieurs siècles entre l'Avesta ancien et l'Avesta récent. Alors, au pluriel, il faut ici faire une triple distinction. Au pluriel, certains de ces personnages appelés Saushyant semblent œuvrer dans le présent. Ils œuvrent dans le présent. Ce sont, dit Bartholomée, les prêtres. Ce que Bartholomée, je vous dis ce mot, vous pourriez me poser la question, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Je vous répondrai que je ne sais pas, parce que c'est le mot même de Bartholomée. Dit priester, dira Bartholomée. Les prêtres qui, aujourd'hui, dans le présent de l'Avesta récent, continuent l'œuvre de Zoroastre. Et puis, il y a le singulier, celui que nous avons ici, très exactement. L'acteur de la fin des temps, le Saushyant singulier, qui a comme caractéristique l'adjectif Vrtrajan, indien Vrtrahan, briseur d'obstacles. Ça, c'est d'état civil, ou matériellement, ce personnage est le fils posthume de Zarathoustra. C'est un fils de Zarathoustra, fils lointain, conçu par une femme qui se baigne dans un lac où le sperme de Zarathoustra a été conservé. Alors, il faut repasser au pluriel, car ce Saushyant singulier apparaît dans plusieurs passages avec d'autres Saushyant. Le mot est utilisé pour les Saushyant qui œuvrent avec le fils de Zarathoustra. Ici, il n'y a pas de problème. Le texte le dit, ce sont ses amis, Hakar. Ils sont les Hakayo, les amis du Saushyant singulier. Alors, voilà le tableau que dresse Bartholomée. Vous comprenez que ce qui cristallise la conception messianique du mazdéisme, c'est ce lien-là. C'est ce lien-là. Zarathoustra apporte dans le présent les moyens du salut, et après un certain nombre de siècles, son fils posthume viendra mettre fin au temps et accomplir de manière véritablement effective le vrai salut. Alors, les choses en sont là dans le dictionnaire de Bartholomée. Voilà la représentation. Elle a l'air logique, mais vous voyez qu'elle est tout de même assez singulièrement compliquée. En préparant son édition, son commentaire des Gathas qui paraîtra en 1959, Helmut Humbach a fait en 1952, dans son tout premier article, paru dans les Münchener Studien, donc c'est en 1952, numéro 2 des Münchener Studien, Helmut Humbach a vu d'emblée ce qui ne fonctionnait pas dans le tableau de Bartholomée. Il y a quelque chose de faux, quelque chose qui est impossible lorsque l'on lit effectivement les Gathas, c'est ceci. Le mot Saushyant ne désigne pas Zarathoustra. Alors, vous savez, la traduction des Gathas de Humbach est une œuvre, je dirais, copernicienne. C'est pour la première fois dans ces Gathas de 1959, la manière dont nous représentons le texte de l'Avesta ancien rompt avec la tradition de Bartholomée, qui était unanime jusque-là. La situation n'a pas changé, je le dis toujours, même si plusieurs travaux sur les Gathas sont parus, mais le choix essentiel de notre philologie, c'est se ranger à l'interprétation qu'en fait Bartholomée ou à l'interprétation de Humbach. Dans un cas comme celui-ci, je pense que Humbart a vu littéralement le point faible de la représentation des Saoxiennes de par Bartholomée. Le texte ne permet pas de superposer le personnage qui porte le nom de Zarathoustra et celui qui est désigné comme Saoxiane. Cela n'existe pas. Or, comme vous voyez, cela brise la nature messianique du lien entre Zarathoustra et son fils posthume. C'est autre chose. Or, nous avons affaire véritablement à un réaménagement historique qui présente les caractéristiques de l'œuvre de Humbart, d'ailleurs. C'est-à-dire que Humbart est amené par l'interprétation qu'il donne des Gathas à mettre l'accent sur ce qu'il appelle le « for Zarathustrisches bei Zarathustra », le pré-zoroastrien chez Zoroastre, chez Zarathustra. Il veut dire qu'il y a dans les Gathas une fidélité beaucoup plus grande qu'on ne l'avait admise jusqu'alors au vieux ritualisme indo-iranien. Il fait naturellement des gathas, des hymnes comparables dans une grande mesure aux hymnes du Rig Veda. Et cette interprétation des choses amène par ailleurs Humbart à sous-estimer la part d'eschatologie qu'il peut y avoir dans les gathas. Ce sont les doubles caractéristiques du réaménagement de Humbart. D'une part, l'accent mis sur le ritualisme des Gathas et d'autre part, le frein qui est lui imposé à l'eschatologie. Dès lors, on a affaire à une évolution simplement des conceptions. Nous nous trouvons devant un phénomène historique, n'est-ce pas ? Nous avons, il y a, le mot Saoxiane désigne tout autre chose que ce que Bartholomée disait dans le cadre de l'Avesta ancien. Et en récent, bien sûr, là, Humbart accepte le tableau parce que entre les Gathas et l'Avesta, et les textes de l'Avesta récent qui en témoignent, la doctrine de la fin des temps s'est constituée. Et cette doctrine implique qu'un fils de Zarathoustra sera l'ouvrier majeur de cette fin des temps. Donc, au lien structurel de messianique, c'est substituer simplement l'histoire des conceptions religieuses. Or, alors, il restait à déterminer, parce que ce tableau ne peut évidemment, le tableau de Humbart, la conception de Humbart ne peut être justifiée que si, bien sûr, il est complet. Et l'analyse qu'il fait des passages avestiques l'amène à conclure que le Saoxiant de l'Avesta ancien, qu'il soit singulier ou pluriel, est ce qu'il appelle l'Opferherr, le seigneur du sacrifice. Ce mot allemand est un terme technique pour qui désigne ce que j'appelle ici avec vous le commanditaire, c'est-à-dire le personnage probablement assez riche, probablement pourvu d'autorité sur un ensemble social, mais qui prend la responsabilité de faire un sacrifice et qui paye, bien sûr, et qui paye pour cela. Or, voilà la conception que Humbart se fait des choses. Entre l'Avesta ancien et l'Avesta récent, un glissement de la notion de commanditaire du sacrifice à celle d'un personnage qui joue un rôle essentiel à la fin des temps. Deuxième intervention consécutive, moi-même. En 1974, j'étais à ce moment-là l'assistant Humbart. Et en 1974, je prépare mon travail sur le verbe avestique. Et une chose me frappe, que Humbart n'avait pas remarqué, c'est que le verbe « sou » par lequel on interprète « saoxiant » n'est pas transitif. Il est l'équivalent exact du verbe « chou » indien qui signifie « très ». Très trivialement gonflé, gonflé. Et il faut donc ranger Saoxiant avec un certain nombre de termes. Là, on avait un ici, pour les Fravashi, Soura. Bon, on va traduire par puissant pour que ça paraisse acceptable. Puissant, opulent, c'est l'Indien. Une épithète fréquente de Indra, Shura. Indra est le dieu Shura par excellence. Ensuite, ce même verbe produit un mot extrêmement fréquent dans les gathas qui désigne une certaine forme de puissance et qui est « ça va ». Il est un hétéroclitique. Parfois, le suffixe est « as », parfois il est « a », simplement. Et il représente le sanskrit « shavas ». Aussi une puissance, « shavas ». Donc, nous devons partir d'un autre sens d'un sens qui est transitif. Les saushyant, littéralement, ce sont ceux qui vont gonfler, si je me tiens très près du sens premier du verbe, mais vous voyez qu'on peut définir bien sûr les choses autrement, puisque la comparaison indo-iranienne nous y invite. Hein. Les saushyant, ce sont ceux qui n'ont pas encore, mais qui auront la propriété d'être sura et shura, donc de manifester une certaine sorte de puissance. Ils sont ceux qui vont s'emparer de cette puissance que l'on appelle sava, ou shavas dans le Rig Veda. Or, appelle, le mot saushyant est en soi un futur, c'est un participe futur, donc ce sont des personnages qui font quelque chose pour s'assurer une qualité future, pour s'assurer la détention de ce type de puissance. Alors, d'une certaine façon, j'ai confirmé Humbard en disant que, en réalité, le saushyant, y compris dans l'Avesta récent, je renouvelle avec ça la vision qu'en avait Bartholomé, les prêtres, ce sont ceux qui comptent bien obtenir le bénéfice de leur pratique rituelle. Cela correspond grosso modo à ce que disait Bartholomé. Je n'ai pas été très précis, je m'en ferai la critique aujourd'hui si je devais me critiquer, car dire cela, c'est éluder, évidemment, la distinction nécessaire entre sacrifiant et sacrificateur, entre commanditaire du sacrifice et technicien du sacrifice, celui qui rend le rite. Hein, c'est une distinction que nous devons toujours avoir présente à l'esprit lorsqu'il s'agit d'un texte indo-iranien. Humbard, lui, avait été très clair, l'opferer, c'est très clair, c'est le commanditaire, n'est-ce pas ? Mais si Bartholomé, lorsqu'il dit priester, ou moi-même, lorsque je dis ceux qui vont obtenir le bénéfice de leur pratique, vous voyez que nous restons étrangement vagues. Avec cela, je puis bien sûr manifester une certaine indulgence envers ce flou que Bartholomé et moi avons pratiqué. Car à l'époque où j'ai travaillé, nous n'avions pas une claire représentation de la manière dont la distinction entre le commanditaire et le technicien du rite s'établissait en avestique. Ne l'oubliez pas, le problème vient du fait que le verbe qui signifie sacrifier, yaj, désigne à l'actif. C'est le prêtre qui sacrifie, c'est l'action du technicien. Mais au moyen, c'est l'action du commanditaire. Les deux sacrifient. Mais les techniciens le font à l'actif et les commanditaires le font au moyen. C'est la distinction. Or, cela est éliminé de la vestique. C'est éliminé. Le verbe est toujours, toujours moyen. C'est un verbe, c'est un moyen tantum, comme l'on dit en grammaire, un déponent, comme l'on dirait en latin. C'est un verbe qui est toujours moyen. La distinction ne se marque plus dans le verbe même du sacrifice. Alors, il nous faudrait trouver les mots qui correspondent à l'institution. Comment désigne-t-on le commanditaire ? Comment désigne-t-on le technicien ? Or, je commence à l'entrevoir, en réalité. Je commence à l'entrevoir et je sais comment s'appellent les techniciens dans l'Avesta ancien, dans les gathas du moins, mais je ne sais pas comment s'appelle le commanditaire dans les gathas. Et l'Avesta récent, nous allons y venir. Nous allons y venir. Le commanditaire, c'est absolument sûr, lorsqu'on emploie ça au singulier, c'est le Nar-Achavan. Le Nar-Achavan. Mais l'homme Achavan. Celui-là, c'est le commanditaire du sacrifice selon l'Avesta récent. Mais cette expression n'est pas testée dans l'Avesta ancien. Et je soupçonne dans l'Avesta ancien que le mot Ardra désigne les officiants, les techniciens. Ardra. c'est ceux qui vont réussir leur coup. C'est ça que ça veut dire, Ardra. Mais alors, ceci implique de toute façon que Saoshan, ce n'est pas l'opferer, ce n'est pas le commanditaire. N'est-ce pas ? Nous ne pouvons pas certainement... La tentative de Humbar pour faire cela est tout à fait hypothétique. Nous devons essayer de trouver autre chose. Je vous dis tout de suite que pour l'Aveste ancien, je ne sais pas. Hein. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je n'aurais pas à vous dire. Il faut un réexamen d'ensemble de la terminologie de l'Aveste ancien pour en décider. Alors, troisième et ultime intervention, celle de Almut Hinze en 1995. Dans les mélanges pour Werner Sundermann. Alors, Hinze dresse le constat que, à la fois, Bartholomé, Humbar et moi, nous sommes montrés très incohérents, parce qu'on présente un tableau des choses très compliqué, peut-être inutilement compliqué, et où il y a des clivages qui, peut-être, sont le signe sûr de la faiblesse de nos hypothèses. Alors, elle va tenter une explication globalisante. Une interprétation qui gomme la distinction entre le singulier et le pluriel, entre l'ancien et le récent, et qui, d'une part, ça c'est son trait personnel, déritualise les textes au maximum, c'est assez dirigé contre Humbar et moi, et comme Almut Hinze tout de même est un produit de l'école d'Erlangen qui est... Qui s'est toujours méfié de la portée eschatologique des textes avestiques, ben elle déseschatologise aussi le texte et elle propose une hypothèse que j'ai jugée, moi, particulièrement faible. Particulièrement faible parce que si les mots sont aussi vagues et aussi inconsistants, je ne sais pas de quoi nous pouvons encore parler. Dit-elle, les Saoshians sont essentiellement des gens du présent. Le futur, c'est un hasard. Or, ce sont des gens, dit-elle, qui se battent. Ce sont des gens qui se battent et qui se battent avec force contre le mal. Ce sont en quelque sorte des personnages très pieux qui acceptent les doctrines zoroastriennes et qui manifestent par leur action cette adhésion à l'éthique qui est censée imprégner les textes zoroastriens. Alors, évidemment, ici dedans, il est très difficile de... On peut poser la question immédiatement, oui, mais pourquoi ce terme, alors, est-il utilisé pour l'acteur de la fin des temps? Et là, c'est sa réponse elle-même qui devient très faible, parce que nous dit, oh, il faut y voir, sans doute, dit-elle, le produit de certaines représentations épiques de l'histoire du monde, où ce combat contre le mal que livrent les Saoshian est appliqué au combat final du dernier homme qui sacrifiera. C'est pas voilà l'explication de Hinze. Alors, c'est ici que je voudrais que vous représentiez bien combien la façon d'aborder le texte que nous avons adopté change cela. Comment les quelques intervenants dont je viens de vous présenter l'interprétation ont-ils procédé pour tenter de déterminer le sens du mot Saoshian? Eh bien, un peu comme on tire au sort, on met dans un vaste pot toutes les attestations du mot, alors on essaye de... pratiquer alors à ce moment-là la manière d'un puzzle, essayer de voir tel passage peut correspondre à tel autre, etc. Mais cette manière de travailler est profondément imprégnée de la conception, cette vieille conception que l'Avesta est le résidu d'un livre perdu, hein, et un résultat hasardeux. Hein. Les textes qui sont là n'ont pas de cohérence interne, on va donc les traiter comme des atomes isolés et tenter de voir ce qu'on peut faire selon la technique du puzzle, en mettant toutes ces attestations l'une en regard de l'autre. Bon, nous ne travaillons pas comme ça depuis 2 ans, je vous le rappelle. Nous travaillons dans la perspective d'un ensemble liturgique constitué avec méthode et conscience, où les mots doivent être observés et analysés dans le champ textuel où ils apparaissent. Or, dans le Yasna, il y a deux passages importants où apparaît le Saoxiant. C'est lors de l'investiture du collège sacerdotal. Je crois que nous en avons parlé, c'était il y a 2 ou 3 ans. Je ne suis plus certain du moment. En tout cas, que se passe-t-il dans l'investiture des Saoxiant? L'investiture des officiants, excusez-moi, se produit, je vous le rappelle, juste avant la première absorption de Haouma par le prêtre principal, par le Zaotar. À ce moment-là, le collège sacerdotal est installé. Et on attend de ses membres 2 qualités qui, dans d'autres contextes, sont les qualités mêmes des Saoxiant. Ils doivent être dans Ishta, c'est-à-dire des experts, les meilleurs experts possibles dans Ishta. Et ils doivent être Arsh Vachastema. Ils doivent avoir une très bonne habileté à prononcer les textes selon une diction particulière que la diction rectiligne, ce qui signifie probablement, comme l'a bien vu Pirard, je crois, en faisant le 110, dit pour ceux d'entre vous qui ont fait du sanskrit. Donc, nous dirions en français en faisant des liaisons, hein, mais elles sont spécialement complexes. Donc, ces deux qualités de Saoxiant doivent être les qualités des prêtres. Et puis, ces prêtres investis de leur charge sacrificielle, hein, le Zaotar, celui qui s'occupe du feu, etc., le Frabartar, celui qui fera l'immolation. Donc, une fois en charge de leur domaine respectif dans le sacrifice, le Zaotar va prononcer le Fravarane, hein, c'est-à-dire la déclaration officielle de choix rituel, à la suite desquelles le collège sacerdotal pourra s'adresser au Dieu directement. Hein, dire nous, vous, hein, ce sera le renvoi du discours. Et cela, c'est le Yasna 14. Le Yasna 14, le Fravarane, c'est le Yasna 12. Ce sont des passages, 13 et 14 sont des passages très brefs. La distance n'est pas longue, hein, quelques strophes. Là, clairement, la première fois, n'est-ce pas, que le Zaotar, ou au nom du collège, parce qu'il va s'exprimer à la première personne du pluriel, il va dire, voilà, ce sacrifice, c'est pour que vous ayez, c'est pour votre louange, pour votre bénéfice, à vous, les Ameshaspenta. Vous. Bon, vous, les dieux, en quelque sorte, pour le dire de la façon la plus dénuée de littérature possible. Et c'est pour que nous, les Saoxiant, alors voilà, nous, les Saoxiant, hein, voilà le nous qui surgit, c'est nous, les Saoxiant. Nous ayons toutes sortes de biens, du bonheur dans la vie et du bonheur dans l'au-delà. Donc, ici, dès qu'il est apte à parler aux dieux, le collège des officiants se désigne comme composé de Saoxiant. Ce qui m'a permis, je vais vous le rappeler, si c'est un rappel, de présenter les choses, à mon sens, de la manière suivante. Et vous voyez que cela donne une idée aussi, justement, du caractère, le fait que le mot priesteur, prêtre, soit trop vague. N'est-ce pas ? D'abord, le prêtre, c'est une fonction sociale. Pas tout le monde n'est pas prêtre. Il y a des gens de rang sacerdotal. Mais le prêtre, c'est la travane. La travane, ou attaou run au degré plein, ça, c'est son rang dans la société. C'est quelqu'un qui peut fonctionner comme prêtre. En réalité, en sanskrit, c'est atarvan. Le mot sanskrit atarvan, et il y a eu un peu de déformation secondaire, probablement due au nom du feu, au nom du feu atar, qui a certainement déteint sur le nom du prêtre. Bon, c'est un détail. Alors ça, c'est la fonction sociale. C'est dans la société, c'est le rang social. Puis, avec l'investiture, il trouve une fonction sacrificielle. Fonction sacrificielle, il est le Zaotar, c'est-à-dire le prêtre qui fait les puisées des libations, ou bien il est celui qui fait grandir le feu, celui qui active le feu, celui qui veille à la sonorité des rites, le Sraushtavarza, ou le Frabartar qui procédera à l'immolation. Ça, c'est la fonction sacrificielle. Il faut pour cela le lien de l'investiture. Alors, une fois le Fravara né, une fois ses rôles distribués, les rôles sacrificiels distribués, la déclaration Fravara né, je choisis, hein, qui connecte immédiatement le collège des officiants à leur fravashi, à leur force, la force mentale qui leur fait faire le choix sacrificiel, la déclaration fravarané leur offre une troisième fonction, c'est leur fonction, je dirais sacrée, je ne vois pas de meilleur mot, fonction sacrée, et cette fonction, ils sont définis comme ça au chiant. Voilà. Je crois que cela ne peut pas être mis en doute. Je crois que lorsque nous abordons les textes de l'Avesta dans la perspective d'un ensemble concerté, où les mots ne sont pas utilisés pour rien, ils n'ont pas et jamais avec un sens vague, voilà la représentation des choses que nous pouvons avoir. Et remarquez qu'ici, le sacrifice s'en va vers la fin, hein, vous savez, on a déjà désactivé certaines choses, le feu entre autres. Le mot Saoshant réapparaît. La boucle va être bouclée. Et effectivement, ce sera dans les chapitres qui vont venir, n'est-ce pas, le mot Saoshant revient ici. Il n'est pas très clair, il n'est pas associé à un nous très clair. Il sera associé, il est associé, nous le verrons dans la strophe 30, que très vaguement, mais il apparaît de manière très claire dans le Yasna 62. Dans le Yasna 61.5, excusez-moi, le Yasna 61.5, c'est la clôture ultime du sacrifice. Il y aura encore quelques opérations, mais considérées comme l'accommodement des restes du sacrifice. Alors, le Yasna 61.5 reprend une clausule vieille avestique, c'est très exactement le Yasna 44-13, strophe gatique, kata, un interrogatif. Comment ? Drojam, la droj, la tromperie, le grand principe cosmique opposé à Asha, l'agencement, Nishna Shama. Comment allons-nous éliminer la droj ? Comment allons-nous éliminer la droj ? Et à cette clausule gatique, le texte du Yasna 65 ajoute sa petite touche à lui, Saushento. Voilà. Le renvoi au Yasna 14.1, n'est-ce pas ? Comment nous, Saushent, allons-nous nous débarrasser de la droj ? Donc, je crois que à la fois les deux fois où le mot Saoshant est utilisé de façon articulée, ce n'est pas d'une simple mention du mot dans un contexte vague, c'est toujours possible. Les deux fois, nous voyons clairement que l'association est faite avec la première personne du pluriel, et que c'est le caractère des officiants qui est en cause. Mais alors, comment allons-nous le Yasna 28, le Yasna, pardon, excusez-moi, 59, avec sa strophe 27 et puis sa strophe 28, nous permet de voir comment fonctionnent les choses. Les Fravashi, en lignée ininterrompue, représentent ceux qui ont dit Fravarané. La déclaration qui permet à un officiant de devenir Saushant. Et cela s'est produit depuis le premier homme, Gayamartan, jusqu'au dernier. Entre les deux, s'est inséré à un moment donné de l'histoire, bien sûr, Zarathoustra, et à un autre moment de l'histoire, qui est le présent, le Saushant du sacrifice qui a lieu à Iketna. Ils forment une lignée ininterrompue. L'indien, le sanskrit brahmanique, a un mot pour cela. Nous l'avons vu l'an dernier. Et c'est un mot où vous reconnaîtrez aussi le fravarané ou le mot fravashi. C'est le pravara. le Pravara, la lignée des sacrificateurs depuis le tout premier. La vision de l'histoire n'est bien sûr pas la même. Et le premier sacrificateur, c'est le dieu Agni lui-même. Et puis, bon, il y aura peut-être un jour, un dernier, la représentation de la fin du monde n'est pas aussi vivante dans les textes indiens. Mais la lignée sacrificielle ne peut pas être interrompue non plus. Et c'est le verbe pravar, ou fravarané ou fravashi, qui a servi à désigner cette filière. Bien sûr, alors nous pouvons comprendre maintenant, nous pouvons comprendre ce que l'arrangeur du yasna entend en disant que l'obstacle sera brisé entre le yasna 51 et le yasna 53. Briser l'obstacle, c'est l'apanage du dernier sacrificateur. Car le bris de l'obstacle sera véritable, sera effectif avec le dernier sacrificateur qui pour cela mérite d'être le Vrtrajan par excellence. Ben, c'est lui qui éliminera définitivement les forces du mal et qui permettra au corps vivant de ressusciter. Mais indépendamment du caractère effectif de ce bris de l'obstacle, le bris de l'obstacle est symboliquement effectué par le zaotar de chaque sacrifice. Et l'opération est censée avoir lieu entre le yasna 51 et le yasna 53. Alors, si on assemble ces données, nous avons vu il y a 2 ans que, en interprétant les yasna 19 et 21, que les toutes premières formules, yasna 27, Yasna 27, 13, 14 et 15, la Hunavairea, la Shemvohu et le Yenke Hatam, respectivement, sont censés correspondre aux premières étincelles de la cosmogonie. C'est le début des temps. C'est en récitant ces formules que le monde commence à exister. D'abord, par la manifestation de la pensée, par la manifestation d'achat, et puis par la fondation du sacrifice. C'est à ça que correspondent les 3 textes. La Hunavairea, c'est l'apparition de la pensée. La Shemvohu, la récitation de la Shemvohu par Ahura Mazda, c'est l'apparition de l'ordre du monde. Et la 3e formule, le Yenke Hatam, est prononcée par un personnage qui est Zarathustra. Il est là, oui. Il est là déjà à cette époque. Qui affirme son intention de fonder le sacrifice. Là, les 3 éléments de la cosmogonie. C'est donc le début de l'histoire, les 3 formules. Avec le yasna, la fin de l'Avesta ancien, avec le yasna 53, puis le Shusho Mantra, c'est la fin de l'histoire. Cela nous permet donc de conclure, je crois, de façon tout à fait vraisemblable, que le sacrifice du yasna est censé reproduire l'histoire du monde dans ses 4 états. L'état mental, d'abord, l'état matériel immobile, ensuite, l'état matériel mobile, le monde tel que nous le connaissons, avant Zarathustra, puis le monde tel que nous le connaissons depuis Zarathustra, les 4 âges du monde. C'est cette histoire qui est censée raconter l'Avesta ancien, l'Estauta Yesnia, selon l'arrangeur du yasna, en fonction d'une interprétation, bien sûr. Les textes ne disent certainement pas tout cela, ils ne racontent rien du tout à cet égard. Il faudra revoir ces choses-là. Mais l'arrangeur du yasna comprend les choses comme ça. Ou plutôt, il se forge cette image des choses par la pratique de l'exégèse, comme nous avons vu. Alors, bien sûr, s'il s'agit de reproduire l'histoire du monde, pendant un certain temps, on rejoue cette histoire. Et à partir d'un certain point, on préfigure cette histoire. Il faut bien qu'à un moment donné, le passé verse dans le futur, hein, dès que l'on raconte toute l'histoire d'un monde fini. Alors, malheureusement, nous lisons ces choses en filigrane de la structure du yasna. Le produit de l'exégèse qui a produit cette liturgie, ben nous ne l'avons pas directement. Ce serait bien intéressant de l'avoir. Nous n'avons que ces petits éléments que nous avons trouvés dans le Yasna 19, 20 et 21. Il n'y a rien d'autre. Alors, les choses... on pourrait dire que ce que nous pouvons comprendre, ce que nous pouvons comprendre à travers la structure du Yasna, de cette histoire du monde, bon, nous venons d'en parler, les trois formules initiales du Yasna 27, 13 à 15, c'est l'étincelle cosmogonique. Le Yasna 33, 11, comme nous l'avons vu en analysant le premier texte consacré à Srausha, est censé correspondre au premier sacrifice rendu dans le monde matériel, c'est-à-dire celui du dieu Srausha. On peut comprendre par la manière dont les textes sont évoqués que le début de ce sacrifice primordial, divin et primordial, coïncide avec le Yasna 33-11 et conduit à une immolation qui a lieu dans le courant du Yasna 34. Alors, 51-1 et 53-9, les deux dernières gathas, c'est peut-être le secteur textuel sur lequel nous sommes les mieux renseignés, car ce sont eux qui sont évoqués le plus fréquemment. C'est la victoire finale à la fin des temps. La victoire finale à la fin des temps est obtenue dans l'intervalle entre ces deux, textes. Ceci dit, il faut bien se représenter que la démarcation dès lors entre la commémoration du passé et la préfiguration du futur se situe dans le volet central des gathas, c'est-à-dire entre le Yasna 43 et le Yasna 50. Malheureusement, c'est le secteur du texte qui est le moins évoqué, celui sur lequel nous disposons du moins d'indications, et je ne sais pas bien, je ne peux pas le dire, mais nous ne pouvons pas tout savoir. Alors, on pourrait se représenter les choses maintenant, pour dire la même chose, bien sûr, mais en les présentant d'une autre manière, on pourrait se représenter aussi l'opération qui se joue pendant la récitation de l'Avesta ancien de la manière suivante. Il y a un sacrifice primordial, le sacrifice archétypique de Srausha. Le sacrifice primordial pour le monde matériel, parce qu'il en va autrement, qui était le sacrifice d'ailleurs dans le monde mental, c'est encore une autre question, mais nous ne sommes pas là pour faire nous-mêmes de la théologie. Ce sacrifice primordial est censé être évoqué par le Yasna 33, plus le Yasna 34, plus le Yasna Haptankaiti. Donc, l'immolation. Ensuite, les Yasna 43 à 50, ce sont les sacrifices humains historiques. Enfin, le sacrifice final, celui de l'ultime Saushyant, sacrifice final, est évoqué par le Yasna 51, le deuxième Yasna Haptankaiti. N'oublions pas qu'on le récite une seconde fois dans l'intervalle où l'on brise l'obstacle, justement, et le Yasna 53. Voici donc, là, quelque sorte, la représentation du Pravara avestique, de la longue lignée ininterrompue de sacrifiants qui se raconte à l'intérieur de l'Avesta ancien. Alors, ceci nous pose des questions, mais des questions qui nous sont inaccessibles, mais il n'est pas inintéressant que je les évoque. Par exemple, y a-t-il une seconde immolation qui serait effectuée dans les alentours du second Yasna Haptankaiti, et que donc une seconde offrande carnée lors de la seconde récitation du Yasna 36. Je n'évoque pas cela pour compliquer le problème, mais je ne puis pas m'empêcher d'être intrigué par le fait que dans le Yashta Mitra ou dans le Yashta Tishtriya, ces deux textes, ces deux Yashta ont en commun une histoire très semblable. C'est que la divinité demande qu'on lui sacrifie, parce qu'elle n'est pas capable de remplir sa mission si on ne lui offre pas un sacrifice nominal. Alors, on va sacrifier, bien sûr, mais ça ne va pas, ça ne suffit pas. Et dans le Yashta Tishtriya, pas ce Winmitra, mais dans le Yashta Tishtriya, c'est très clair, Il échoue à nouveau, malgré le premier sacrifice. Il est abattu par son adversaire, le démon de l'évaporation. Et alors, il faut faire un second sacrifice. Et alors, ça marche. Kshatriya sera vainqueur. Il y a une duplication du sacrifice, à la fois dans le yasht de Mitra et dans le yasht de Kshatriya. Alors, vous comprenez le sens de ma question. Est-ce que ce n'est pas ça, n'est-ce pas ? La répétition des deux textes qui se sont désignés explicitement dans l'Avesta lui-même comme yasna, c'est-à-dire comme sacrifice. Car s'il y a bien un moment qui est senti, ressenti comme sacrificiel, c'est la récitation du yasna haptankaiti, que ce soit la première ou la deuxième fois. Alors, je pense que la question n'est pas vaine. Je ne sais pas si on pourra jamais la préciser avec une certaine vraisemblance, je ne sais pas. Je voudrais faire alors une autre petite remarque, mais subsidiaire cette fois. Elle ne concerne plus peut-être l'opération sacrificielle en cours. Cela, nous y reviendrons la semaine prochaine. C'est le dieu Vrtrakna. On lui sacrifie nommément dans la première ligne de l'astrophe 28. Nous sacrifions à Vrtrakna, créé par Ahura Mazda. Le dieu Vrtrakna, c'est très clair, c'est l'allégorie du Brit l'obstacle. C'est l'allégorie du Brit l'obstacle. Cette notion, cette abstraction qui est le fait de briser l'obstacle, a été divinisée. Alors, si bien que la personnalité de cette divinité, vue par l'arrangeur du Yasna, c'est une divinité qui présente des caractéristiques extrêmement précises, qui doit son nom à un moment extrêmement précis du sacrifice. Alors, je crois que nous rencontrons ici la manifestation d'un facteur que nous avons pu observer l'an dernier avec les divinités Fravashi, cette année avec la déesse Ashi et le dieu Srausha, n'est-ce pas ? Cette idée que peut-être commettons-nous une grande erreur en essayant de retrouver le passé dans le panthéon mazdéen. Le panthéon mazdéen doit ces concepts. Certainement, ils sont ancrés dans la vieille terminologie sacrificielle indo-iranienne, sans aucun doute. Et il est intéressant d'aller exhumer cette terminologie. Nous l'avons fait. Vous ne pouvez pas m'accuser de ne pas l'avoir fait. Mais peut-être devons-nous aussi entériner le fait que la personnalité des divinités, indépendamment de leur origine terminologique, est une personnalité nouvelle, et strictement fondée sur les données d'une doctrine qui vient d'acquérir quelque chose de fondamental et qui est justement cette représentation du monde selon quatre âges. Ça, c'est le schéma directeur de toutes ces interventions directes dans les textes avestiques. C'est une mythologie refaite. N'oublions pas que ces dieux-là n'ont pas de nom, ce ne sont pas des personnalités divines dans le Veda. Ce ne sont pas encore des personnalités divines dans l'Avesta ancien. Ce sont des personnalités divines dans l'Avesta récent. Ce sont de nouveaux dieux, d'une certaine façon, même si leur nom dénote leur origine lointaine. Mais peut-être devons-nous aborder la mythologie du mazdéisme de manière moins archéologique. Peut-être essayer de voir quelles sont les nouvelles idées directrices d'un panthéon ainsi organisé. Voilà, je vous remercie de votre attention. Nous reprendrons encore la dernière strophe, la strophe 30, la fois prochaine. Alors conservez votre matériel, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.